Non, non, pardon, j'ai un peu en pièce. Je vous fais comme ça. S'il y a une lettre de Bassoul, on peut quand même lire. S'il y a pas
de
lettre. Non, c'est trop. C'est-à-dire, tu peux lire dedans, mais sans la voir. Bon, si vous voulez, comme vous l'avez l'air à la fin. Bon, avant cela, je veux donner un rythme, enfin un enseignement sur Purim. Vous apprendrez que Paris est différent d'une ville de Purim. C'est-à-dire que j'ai le Mishté. Le Mishté, c'est donc la Seuda. Il y a deux mitzvot particulières qui sont importantes pour Purim. D'abord, la mitzvah de Matana Laïviri. D'accord. Il s'appelle Matana Laïviri. Après, je mets les. Oui, Matana Laïviri. C'est-à-dire, on a des cadeaux aux pauvres. Ça, c'est une première mitzvah. Première mitzvah, d'accord. Et ensuite, Mishloach Matana. C'est qu'on envoie à au moins deux de ses amis une part de son repas de Purim. Alors, si on a à la fin, il faut qu'il y ait au moins deux, comment dire, deux manas. Mana, c'est une part de mana. Au restaurant, on dit mana bichonnage. Mana, comment ça s'appelle en français?
Repas.
Repas, oui.
Non,
mana.
Replat.
Repas.
Repas.
Mana, une part. Et il faut qu'il y ait au moins deux. Deux plats, comme ici, on dirait mangeable, cuisiné, une cuisse de poulet à la hauteur, c'est suffisant, mais enfin deux choses différentes, et une bouteille de vin, ou d'alcool, enfin de jus de raisin. Et on a pris l'habitude de s'envoyer des gâteaux et des bonbons, et des... ça c'est en plus. La mitzvah réelle, c'est de faire partager son repas. Vous comprenez ce que alors on envoie à deux de ses amis plus. Et on apprendra que c'est une mitzvah, c'est deux mitzvot ensemble, c'est une mitzvah de constitution de la communauté. Donc c'est relié à priori des shkalim, que vous apprendrez donc avec les minimes, avec c'est un truc plus en détail. Vous savez que donc, le Shabbat qui précède, le Rosh Chodesh Adar, le Shabbat qui précède, Purim, le Shabbat qui précède, le Rosh Chodesh Nissan, le Shabbat qui précède, et ça, sont des Shabbats spéciaux. Ça, vous l'apprendrez aussi en détail. Je vais le signaler. Si ce n'est pas suffisamment clair, je reprendrai ça avec vous mardi matin. Vous comprenez bien qu'est-ce que c'est Shabbat Zahor, Shabbat Achodesh, Shabbat Agadol, Shabbat Shkalim, etc. Et alors, on avait l'habitude de rassembler la participation de chaque membre de la communauté au moment de Rosh Chodesh Adar pour préparer la koupa. La koupa, c'est-à-dire la caisse qui était nécessaire pour acheter les sacrifices pour le temple. La règle était que ce n'est pas un donateur qui donnait cet argent, un indigne. L'indigne, vous rappelez en la prière, qu'est-ce que c'est l'indigne, okay. Mais qu'il faut qu'il y ait une participation de tous. Alors le rite, finalement, c'est que on rassemblait un demi-shekel de chaque paire de femmes, de chaque femme. Bon, tout ça, vous allez l'apprendre en détail. Alors nous allons voir un enseignement à propos de cela, à propos de Michel, je vais vous donner le verset dans la Megillah. Ensuite, vous aurez un verset dans le livre de Shemot, on étudiera le rapport. Et après, tout le temps que va nous rester, on va commencer à lire la Megillah. Alors, prenez, c'est à la fin de la Megillah, dans le chapitre 3, vous allez prendre le verset 22. Prenez déjà le verset 22. Vous allez prendre le chapitre 9 à partir du verset 20. De la Megillah, on l'appellera Mordechai Yehudi, je ne sais pas, j'aurai le temps de vous expliquer cela. Alors, Vaïrto Mordechai, et Mardoché a écrit, et Tadevarim a élé, toutes ces choses-là que l'on vient de dire, que l'on vient de raconter, Vaïchlach Sfarim et Kola Yehudi, mais il a envoyé des livres, ça c'est Sfarim, à tous les Juifs, et Kola Yehudi. Alors, d'un point de vue strictement historique, c'est déjà le temps où le mot de Yehudi va prendre le sens qu'il aura par la suite, lorsque nous traduisons en français par juif et pas par judéen. Alors je vous rappelle de quoi il s'agit. Après le temps du roi Salomon, il y a eu un schisme. 9 tribus et demie ont formé le royaume du Nord, qui s'appelait le royaume d'Israël. Vous pouvez en faire dire. Vous connaissez ça? Il y avait 9 tribus et demie qui avaient pour capitale Samarie, Shomron, et qui étaient dirigées par une dynastie de la tribu d'Ephraïm, donc les descendants de Joseph. Puisque la tribu, ce qui aurait dû être la tribu de Joseph, a été divisée en deux, Ephraïm et Manassé, quand
À la mort
de Jacob. Bref. Bon. Et alors, ce royaume d'Israël du Nord a été détruit le premier par la civilisation babylonienne. Ça, vous savez. Et restait le royaume du Sud. Et nous sommes au temps du premier temple. Et restait le royaume du Sud, qui était le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, le premier royaume de Juda, et qui comportait la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, et la moitié de la tribu de Manassé. Plus, les Lévites étaient divisés dans les deux royaumes. La tribu de Lévi était répartie dans les deux royaumes. Et alors, très rapidement, ce royaume de Juda s'est appelé Yehuda, du nom de la tribu de Juda. Mais finalement, tous les membres du royaume de Juda, même s'ils étaient comme par exemple Mardoché qui descend de la tribu de Benjamin, ont pris le nom de Yehudaïm, les Judéens. Yehudim dans le sens de Judéen. C'est-à-dire, premièrement, c'était les membres de la tribu de Juda qui s'appelaient Yehudim. Ensuite, tous les membres du royaume de Juda. Et c'est ce nom-là qui va devenir le nom des Juifs de la diaspora. C'est vrai? Yehudi. C'est-à-dire, les Israélites se sont perdus. C'est ce qu'on appelle les 10 tribus perdues. En réalité, 9 et demi, bon, ils ont 10 tribus perdues. Et je pense qu'encore dans le courant de l'année, vous aurez une arcade noire comme ça. Vous avez déjà compris?
Oui, parlez-moi.
Qui vous parlera des recherches qui sont en train d'être faites actuellement chez les Allemands et au nord de la Réopa qui a été un de ces moyens. Et on vous montrera des champignons, des photos. Et il est probable qu'effectivement ce soit dans ces régions-là, d'après plusieurs sources que nous avons dans la Mishnah et dans d'autres textes, dans ces régions-là que les tribus ont été finalement réparties et en fait, se sont fondues dans le paysage humain de ces régions, en particulier lorsque, il y a à peu près 9 siècles, un peu plus, ils ont été convertis à l'islam et que très probablement la majeure partie des Afghans qui actuellement sont dans la résistance contre la Russie. présente de ces tribus d'Israël. Et il vous parlera lui-même d'une tradition qui disons qu'ils sont les descendants de Joseph et que, comme nous savons, ce sont les descendants de Joseph qui finalement assureront le retour messianique sur la planète temps. Et si un jour ils reviennent, eh bien, ils sont à peu près 30 millions actuellement. Ils sont plus nombreux que les juifs eux-mêmes. Bon, il vous parlera de tout ça dans les détails. Vous avez même, si on avait demandé au Rav Avichai de venir ce soir-là. Bon, vous aurez une soirée sur les prix. Et alors, sont restés les Judéens du Royaume du Sud, qui ont été détruits 150 ans, 160 ans après le Royaume du Nord, et toute cette communauté de Perses, de Shushan al-Hira, de Suse, la capitale, toute cette communauté de Perses étaient les descendants des Judéens du premier temple. Auxquels finalement se sont un peu joints des rescapés des familles du royaume d'Israël et des tribus. Ils sont entrés chez les Juifs, si vous voulez. Ces Israélites du royaume du Nord sont entrés chez les Juifs. Ensuite, il y a eu le retour, quelques années après ces événements, il y a eu le retour qui a fondé le deuxième royaume de Juda. Et ce retour a été que partiel, comme vous savez, il y a eu toute cette diaspora des Judéens qui sont restés dans Babel. Dans cette région de Babel, et qui sont les descendants de cette communauté où ces événements se sont passés. Si vous voulez, le modèle de la diaspora a commencé par cette diaspora des Judéens du premier temps, qui ne sont pas revenus au deuxième temps. C'est bien clair. Et comme je vous ai déjà expliqué dans votre cours, l'origine du judaïsme yéménite et ashkénaze, c'est de cette diaspora du Beit Rishon qui n'est pas revenue au Beit Sheni, alors que l'origine des Sfaradim, c'est la diaspora du Beit Sheni détruit 400 ans après. De ça, nous avons parlé déjà le dit. Bon, alors je reprends le verset. Vaïrtov Mordechai, il doit devoir y m'aérer, et Mardoché a écrit toutes ces paroles. Vaïchlar Sfarim et Raïm, et Kolaïm, il a envoyé des livres à tous les juifs, à Cher Bechol Medinot Amelech Achashverosh, qui se trouvaient dans tous les états du roi Assuérus. C'était un grand empire qui ressemble beaucoup à la situation actuellement de l'Empire soviétique, c'est-à-dire avec une constitution officiellement très libéral, autonomie de chaque république, et avec répartie dans cet empire les juifs qui n'avaient pas de territoire particulier, et d'autre part le parti des Amalécites, et ça ressemble étrangement à ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire vous avez les républiques soviétiques, qui officiellement bien sûr, une autonomie culturelle, linguistique, nationale même, comme nous le verrons dans les premiers versets de la Mishna d'Esther, c'était la constitution de l'Empire d'Assyrie, et avec deux identités inclassables, les juifs et les amalécites. Dans l'Empire soviétique, c'est les juifs et le Parti communiste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en schématisant beaucoup, mais c'est tout à fait cette situation. Officiellement, la constitution est libérale, mais elle peut fonctionner comme libérale pour tous, sauf pour les juifs. À Kérovim, à Rechokim. C'est-à-dire, et Mardoché a envoyé ses livres racontant tout cela à tous les juifs des états du roi Assuérus. La Kérovim vers Rechokim, ce qui était loin, ce qui était proche. Les Médinotes, c'est au féminin, hein? Médina, c'est Kéva. Donc, Kérovim et Rechokim, c'est pour les Yéhoudis. Bon, le sens déjà, ce qui était loin physiquement, géographiquement, ce qui était proche. On peut peut-être lire un sens plus spirituel, ce qui était proche de leur identité, ce qui était loin de leur identité. C'est-à-dire, ça concerne tous les juifs. Verset 21. Les Kayem Aleim, de prendre sur eux, de réaliser, les Yod aussi, de faire. Et Yom Arba Asar Lachodesh Adar, le 14e jour du mois de Hadar, et Yom Hamisha Asar Bo, et le 15e jour, Bechol Shana Veshana, chaque année. Et alors, dans toutes les villes, c'est le 14 Adar qui est pourri, dans les villes entourées de murailles, au temps de Josué, dit la Gemara, dans les villes entourées de murailles, au temps de Josué, c'est le 15 Adar, en particulier Jérusalem, qui était une ville entourée de murailles, déjà en ce temps. Et toutes les villes dans le monde entier, dont on sait qu'elles étaient des villes entourées de murailles, au temps de Josué, de la conquête de l'Israël, alors on fait pourri le 15 Adar, et pas le 14 Adar. C'est clair le problème. Je continue. Quelle
signification?
Je vous explique. Si je n'ai pas le temps aujourd'hui, je vous reprendrai sa main. En tout cas, oui, vous pouvez utiliser avec Yosef Kayamim, Asher Nahu Bahem, Ayudim, comme les jours où les Juifs étaient en repos, c'est-à-dire qu'ils avaient été sous la menace de la destruction physique, essayer de vous situer dans une atmosphère. Jusqu'au bout, on croyait que c'était les Amalécites qui arriveraient à détruire les Juifs. Renversement de situation in extremis, et là, Nahou, ça veut dire qu'ils ont trouvé Menoucha. Et partout où c'était le 14 Adar, à Suse, la capitale, c'était le 15 Adar. C'est pourquoi, par analogie, bon, mais nous reprendrons plus en détail. Normalement, la grande route du Kiev aurait dû dire des villes entourées de murailles au temps d'Assuérus. C'est pourquoi on a dit des villes entourées de murailles au temps de Yoshua Ben Nun, au temps de Josué. Et la réponse, c'est à cause des rêves d'Israël. Mais nous verrons de quoi il s'agit plus en détail. Où les Juifs se sont reposés de leurs ennemis. Deux jours, dans toute notre histoire, on a dit ouf. Asher n'est pas la haine, où cela s'est basculé, renversé pour eux. Vous retiendrez cette expression, qui est l'expression de pourri par excellence, Nahafour, tout est à l'envers. Et ça sera relié au thème comment, dans la tradition juive, on vit ce que les goïms appellent un carnaval. Vous savez que c'est pas par hasard, c'est à la même époque. Le principe du carnaval, c'est Nahafour, les lois s'inversent. Par exemple, dans les yeshivot, c'était le dernier de la classe qui prenait la place du Rosh Yeshiva et qui faisait un shiur de Purim. Si je suis de bonne humeur le jour de Purim, je prie de voir un Purim. Et etc. Tout est à l'envers. C'est le thème, par exemple, du marquis de Carabas. De Carabas, on dit en français.
Carabas.
Oui. C'est ce qui est d'ailleurs une transformation de Barabas. Et c'est le même thème, c'est-à-dire c'est le jour où les fous sont les gens normaux et les gens normaux sont les fous, etc. Ouais, tout est à l'envers. Une espèce de soupape de défoulement par rapport à la loi nécessaire ce jour-là. Alors dans tous les pays du monde, et en particulier au Brésil, le Brésil c'est, si vous voyez bien la map monde, un peu l'anti-Israël. Vous connaissez le Brésil? Personne n'est allé plus tard. Ça je voudrais confirmer, il y a une intensité de vie dans le Brésil, qui est un pays extraordinaire pour mille raisons, qui est exactement l'inverse de la Kedusha d'Israël. T'as compris ce que je veux dire? Et il y a quelque chose d'analogue dans la société brésilienne. C'est la seule société où on ne peut pas être raciste. Parce que je ne sais plus comment vous dire, les Brésiliens authentiques sont d'authentiques sans mêlée. Et toutes les races sont là-bas. Et les Juifs au Brésil ne se sentent pas bien, parce que c'est tout à l'envers pour eux. Et vous comprenez ce que je veux dire? Bien. C'est l'envers d'Israël. Alors, la grande différence, c'est qu'effectivement, chez les Goïms au carnaval, la loi est inversée, la loi morale est inversée. Alors qu'à vous, pour les Juifs, c'est l'épreuve morale la plus fine, la plus élevée. Je vous expliquerai cela à propos du rite du Mishté. Bon, c'est le problème de Adoyada. On verra ça. Alors, mais retenez l'expression Nahafour. Miyagon et Simcha, de l'angoisse à la joie. Miyavel et Yoto, du deuil au jour de fête. La Asototam, pour en faire Yeme Mishté et Simcha, des jours. Le yes, michté, ça veut dire un repas où on boit, michté. Vesimcha est de joie. Mishto Achmanot, alors vous avez l'expression là, regardez bien. Mishto Achmanot, ish l'ereu, et envoyer des parts de repas. Ish l'ereu, chacun à son prochain, à son ami. Matanot l'aïonim, et des cadeaux au bon. C'est-à-dire, indépendamment, c'est deux mitzvot différentes. Alors, donc, je vous rappelle, la mitzvah de Matanot Laevionim, ça c'est la tzedaka, c'est-à-dire juste avant, je ne rappelle plus exactement comment c'est parce qu'on est décalé à Jérusalem, soit à la fin du jeûne. Donc, juste avant la lecture de la mitzvah. Hein? Oui, mais j'avais dit la lecture de la mitzvah, c'est à la fin du jeûne. Oui. Alors, on rassemble un demi-shekel, chacun donne un demi-shekel, et tout ça est donné à la tzedaka. Alors, chaque année, comme vous savez, le cours du change, on ne sait pas comment ça vaut, Chaque année, la rabbin nous dit, ben, un demi-shekel, cette année, ça fait tant de shkalim actuel. Bon. Les kibel ayoudim et les juifs ont kibel accepté sur eux. Mais vous remarquez qu'il y a un singulier.
Oui.
Tout ça, on étudiera. Et Hachem Echel ou la Asot, mais Hachem Kata Mordechai Aleem, ils ont accepté sur eux tout ce qu'ils avaient commencé de faire. Et ce que Mordechai leur a écrit, et ensuite on rappelle, parce que Haman, la Malécite, avait voulu. Mais moi, c'est pas un tout petit schéma qui m'est venu en évidence à mon dernier voyage, d'ailleurs, en particulier. Je vous rappelle de ce schéma qui nous revient souvent, c'est les trois dimensions de l'identité d'Israël, Am Israël, Torah Israël et l'Ex-Israël. Et puis, on peut faire un parallèle, je ne sais pas si vous en avez parlé dans ces termes déjà, on va faire un parallèle avec les trois grandes dimensions de la lutte contre Israël, de l'antisémitisme. Il y a eu trois tentatives de détruire Israël de trois manières. La première, c'est qu'on a systématiquement essayé de détruire le peuple. Et effectivement, l'événement de Pourim, c'est la commémoration de cela. Que quelles que soient les tentatives de détruire le peuple en tant que peuple, les Rokim ou Krovim, comme on a vu tout à l'heure, et on n'arrive pas à détruire ce peuple. C'est Pourim qui commémore. Deuxièmement, on a essayé de séparer le peuple de la Torah, mais on n'a pas réussi. On a inventé toutes les stratégies possibles et imaginables pour séparer les Juifs d'Israël de la Torah, et on n'a pas réussi. Et là, c'est Simchat Torah qui est finalement la fête, même déjà Matan Torah, Shavuot, mais surtout Simchat Torah. Et puis finalement, la troisième tentative actuelle, c'est de séparer le peuple de sa terre. Et je crois qu'actuellement, nous sommes dans cette phase-là. Remarquez cela. C'est-à-dire que dans le monde entier, l'antisémitisme a changé de style. Il ne s'agit plus de détruire les Juifs, il ne s'agit plus de les assimiler, il s'agit de les couper avec Israël. Remarquez. Et alors, je pense que cette troisième tentative ne réussira pas non plus, puisque les deux premières n'ont pas réussi. Enfin, c'est pas je pense, je sais. Elle ne réussira pas. À quel prix, ça, c'est un autre problème, comme d'habitude, à quel titre. Mais il n'y a pas de doute que c'est la plus dangereuse actuellement. Parce que c'est celle qui est en cours. Vous comprenez? Bon. Et alors, je reviens maintenant à un deuxième verset. Ne perdez pas ce verset, qui est le verset
23.
22, la fin du verset 22, mais je dois maintenant aussi, je vais ou maintenant qu'il y a eu le nîme. Et puis, nous allons lire un tout autre verset. Vous allez prendre le chapitre 33, verset 11. Voilà, vous noterez comme référence que ce dont je vais vous parler commence au verset 7 du même chapitre, chapitre 33. Ça commence au verset 7, mais nous avons surtout étudié le verset 11. Voilà. Après la faute du Hodor, la révélation à Moïse ne va se faire que dans le Ohel Moed, que dans le Mishkan. Et la Torah nous indique que ce Ohel va être séparé du camp, donc la révélation va être particularisée à Moïse, après la faute du Hodor. Et il y a là le verset qui définit ce niveau de la révélation à Moïse dans le Ohel Moed. Et Diber, Hachem et Moshe, et Dieu parlait à Moïse, Panim et Panim. Littéralement, ça veut dire Panim et Panim, face à face. Ça, je vous expliquerai juste après. Face à face, car Hachem et Daber, Ish et Réou. Comme parlerait Ish et Réou, un homme à son ami. Alors, retenez l'analogie d'abord de ces deux expressions dans les deux versets. Ish et Réou. Pour Mishwar Makot, et Ishir Réhu, pour la révélation à Moïse. Vous suivez? Alors, le thème que je voudrais vous expliquer, c'est ceci. L'importance historique de ce qui se passe à Pourim, indépendamment du contenu de l'histoire, du contenu de l'événement, du salut d'Israël, cette dimension âme Israël qui était en danger, et là, il n'y a pas de doute que c'est le premier récit. La problématique de l'antisémitisme, telle qu'on le connaît depuis dans la diaspora, l'intention de détruire le peuple comme peuple. Et sait que c'est le temps de la fin de la révélation. Retenez bien cette théorie. D'ailleurs, la Megillat d'Esther, c'est le dernier livre révélé. C'est-à-dire, ah ben, au niveau de la Megillat d'Esther, la révélation se cache. Et c'est le sens du mot Esther. On rentre dans un monde caché. Nistar, ça veut dire ce qui est caché. Alors, le mot de Esther, c'est un mot perdu. Mais une analogie avec la racine, c'est vrai, ça veut dire qu'il devient secret, caché, en hébreu. Okay. Esther, c'est un mot persan. Comment s'appelait Esther en hébreu? Adassa. Vous savez ce que c'est? Non, vous apprenez. Et son nom hébreu, c'est Adassa. Et son nom en français, non, ça va, ça s'appelle Esther. Son nom perse, c'est Esther. Rappelez-moi une autre expérience là-dessus. Et c'est le temps de la fin de la révélation, et la tradition a donné la même dignité à la Megillat d'Esther qu'au Sefer Torah. C'est-à-dire c'est le dernier livre révélé. Bon, quelles sont les causes objectives, immédiates, dévoilées de la fin de la révélation? Sont les hommes. La destruction de la nation d'Israël, qui est le post-récepteur de cette révélation, 10 tribus sont détruites. Donc c'est le temps qu'on ne peut plus capter. Ça veut dire que même s'il y a des choses individuelles, il y a à chaque génération, il y a des membres du peuple d'Israël capables d'être des prophètes au niveau de la révélation d'Afrique. Ils ne peuvent pas l'être parce que les conditions objectives de la réception de la révélation ont été détruites. Est-ce que c'est clair? C'est clair, ce que je vous ai dit. Et il en résulte que il y a cette capacité d'être prophète va se... comment dire, se... ça vous aide. Se réduire à l'envergure de la communauté, d'une communauté, d'un bétamépage. Je ne veux pas trop prendre de temps, vous comprenez l'idée. Et par exemple, les grands d'Israël à travers la génération, Rachid, Rambam, Yehuda Levi, Kverol, Rabbi Yosef Karo, enfin les grands de la Torah, la Torah Shebaalpé, ont la valeur des prophètes. Mais comme ils ne sont pas dans le temps objectif de la prophétie, alors ça se résolve dans la dimension qu'on appelle Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Par exemple, la tradition nous dira que l'enseignement de Rashi est formulé par le Ruach HaKodesh. Ça se passe comme si c'est l'Esprit Saint qui a écrit le livre de Rashi. Bon, en français, c'est ça. Le Ruach HaKodesh qui a donné à Rashi la capacité d'écrire un livre. C'est-à-dire que si Rachid vivait dans la prophétie, ce serait un prophète. Maïmonide, la même chose, Mishneh Torah, Kuzari, Rambam, les grands. Bon, la Gemara, bien entendu. Vous comprenez un peu ce que je dis. C'est la même chose, mais dans une toute autre envergure. Pourquoi? Parce que les conditions objectives de cette capacité de réception à l'échelle de la nation ont été détruites. Donc la première raison, c'est la perte des détruits. Ça veut dire que la fonction prophétique n'a pas quitté Israël, mais elle s'est cachée à un niveau qu'on appelle l'inspiration, en hébreu, croire à Dieu. Faites bien attention de ce que les chrétiens ont fait de ça. Ils ont inversé le concept, ils appellent ça l'Esprit Saint. Chez eux, il fait des enfants, chez nous, il fait des livres. C'est pas la même chose. Et la deuxième raison, c'est que le lien avec Eretz Israël est à cette époque, le lien avec Eretz Israël était très proche dans le temps. C'était une communauté qui arrivait à peine d'Eretz Israël. Et donc, au niveau de Mordechaï, des prophètes, Malachi, il y avait cette capacité de prophétie, mais elle s'arrête là. C'est pas qu'elle s'arrête absolument, elle se cache, elle rentre dans la clandestinité. Elle est occultée, comme on dit en français. Mystère. Tout ça se cache. Vous voyez donc cette coïncidence dans les termes, hein, et à Hadassah s'appelle Esther en persan. Ça veut dire, c'était le nom d'une divinité que ces paganistes ont utilisé. Nous avons entendu parler de Astarté. Bon, alors, ça va chercher la fin. Bien. Je reviens donc à notre problème. C'est que la révélation est arrêtée. Et le mérite d'Israël d'être resté fidèle à la révélation antérieure s'accroche à la fête de Pourim. Là, il y a un thème important, je ne sais pas s'il l'a étudié déjà avec Yosef Hatzour, c'est que, et on l'étudie dans la Gemara, c'est que c'est au moment de Pourim que se dévoile qu'Israël avait vraiment accepté la Torah au Sinaï. Alors, je vous donne l'explication, on étudiera d'autres fois le texte. L'explication est finalement très simple. Quand Israël était au pied du Sinaï, il a accepté la Torah que Dieu révèle. Et il suffit de poser une question simple. Et quand Dieu se révèle, qui va dire oui ou non? On perd sa liberté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de mérite d'arriver au Sinaï, recevoir la Torah. Bien sûr, le mérite, c'était d'arriver au Sinaï, recevoir la Torah. Mais au moment où Dieu se révèle, il n'y a pas de liberté. Alors, dire qu'ils avaient le mérite de recevoir la Torah au Sinaï, ça pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire un mérite quand c'est Dieu qui se dévoile? Le Midrash le dit de façon simple. Quand le roi est présent, le serviteur n'est pas libre. Alors où était le mérite du serviteur? C'était d'arriver librement à l'endroit où il perdrait sa liberté. Est-ce que c'est vrai? Le mérite, c'est les 49 jours de Pessah à Shavuot. Mais le 50e, pris au piège. Vous avez compris par exemple, quand vous étudierez le rite du Homer entre Pessah et Shavuot, il y a 50 jours. Et la Torah demande de compter 7 semaines, 50 jours. 7 semaines, ça fait 49 jours. Et en fait, on ne compte que les 49 jours. Si on a compté les 49, le 50e vous est donné. Si on n'a pas compté les 49, le 50e n'est pas là. C'est un thème important. Vous apprendrez qu'il y a 50 niveaux de la sagesse et qu'on ne peut acquérir que 49. Mais si on acquiert 49, le 50e est donné. C'est parallèle avec le jeu. C'est clair. Donc, au pied du Sinaï, on ne peut pas dire qu'il y a un mérite quand Dieu dit. Voilà ma loi, il y a un mérite de dire d'accord. On ne peut pas, on est paralysé. La liberté est évanouie. Et alors, deux choses. D'abord, la Gemara dit le verset nous dit que les Hébreux sont arrivés au pied de la montagne, Betartidar, au pied de la montagne. Mais ce texte, on prend, ou en une étude, on en cours mardi matin, je crois, que je ne fasse pas la lire, ce texte. Quelqu'un me rappelle à la fin du cours. Oui.
Voilà.
Et alors, il y a écrit Betartidar, ils arrivèrent au pied de la montagne. Mais on peut lire en hébreu sous la montagne, en dessous de la montagne. Alors le Midrash, dans le Gemara Shabbat, dit ceci. Ça nous apprend que Dieu a soulevé la montagne et a dit à Israël, si vous acceptez ma Torah, c'est bien, sinon je lâche la montagne. Et ça a été écrit, sinon, Chantei ou Ratré, là, sera votre tombe. Et alors, la Gemara ajoute, au nom de Rabbi dit, si je me rappelle bien, donc d'où une possibilité de contestation contre le fait que la Torah nous a été imposée de force. On pourrait dire, je vais juger d'après la Torah. Tu ne peux pas me juger d'après la Torah parce que tu as soulevé la montagne. Vous comprenez? Alors, quel est le sens de cela? Et après la deuxième chose, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La Torah, c'est l'authentification de l'identité même d'Israël. À un certain niveau d'identité, on ne peut pas dire oui ou non. Ou bien je suis, ou bien je suis. Ça veut dire non à la Torah, c'est non à mon être. Alors c'est ce que le Midrash dit. Maintenant vous êtes arrivé à votre niveau d'être, si vous acceptez, c'est bien, sinon vous disparaissez. Il n'y a pas, de mesure possible. Ou Israël, c'est Israël de la Torah, ou il n'y a pas Israël. À l'échelle individuelle, les distances peuvent être très longues. Par rapport à cette authenticité. Mais Israël, comme tel, vous comprenez ce que je veux dire, à l'échelle individuelle, ce lien à la Torah peut se réaliser à des niveaux très différents, même négatifs. Comme je dis souvent, je n'approche pas l'enfant, il y a une différence entre un juif athée et un non-juif athée. Un non-juif athée ne croit pas que Dieu existe, comme il dit. Un juif athée croit que Dieu n'existe pas, c'est très différent. La relation est très différente. Et mon dernier colloque, j'étais avec Robert Mizrahi, vous avez entendu parler. Alors, une bonne nouvelle pour vous, il est en train de faire tout. Et il a fini son discours en disant, il est possible que la fin de ma vie, je dise que je me suis trompé toute ma vie. Pour le faire. Robert Mizrahi. Et alors, je vais raconter une histoire. C'est un grand philosophe et un juif derrière, c'est un rêve. Alors, je vais raconter qu'une fois, j'étais dans un colloque avec un autre de ses collègues, et nous étions amis du temps de la guerre. Alors, les amitiés du temps de la guerre, même si lui est devenu marxiste, et moi que je suis resté juif, on est resté amis. Et alors, à la fin du colloque, il n'arrivait pas, enfin, on n'arrivait pas à se disputer. Alors, la salle était frustrée. À la fin, vous savez, moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui du tout, mais je tiens à vous dire une chose, en tout cas, moi, je crois pas en Dieu. Alors, je lui ai réparti comme ça, c'est arrivé, je dis, ça c'est pas grave, l'essentiel c'est que Dieu croit en toi. Et c'est ça le vrai problème pour un juif. C'est-à-dire que la relation avec l'identité de la Torah peut avoir des distances très différentes à l'échelle individuelle, mais c'est l'identité d'Israël comme telle. C'est ce que dit ce Midrash. Ou bien vous acceptez la Torah, ou bien vous disparaissez. Vous disparaissez. Bon, ça c'est la première chose. Alors la Gemara continue. Elle dit Hazrou Vekibloura Bime Ahashverosh. Bien, c'est vrai qu'au Sinaï, ils ont accepté la Torah sous la contrainte. Oui, quel mérite, c'était arrivé là-bas. Vous comprenez le problème. Mais ils l'ont de nouveau accepté librement au temps d'Assuérus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Au temps d'Assuérus, la contrainte de la révélation a cessé. Et donc le lien à la Torah s'est dévoilé comme étant libre, puisqu'il n'y avait plus la contrainte de la prophétie. Est-ce que c'est clair? Parce que quand le prophète est là, eh bien on ne discute pas. On ne peut pas discuter. Il faut être loin du prophète pour discuter. S'il est là, on ne discute pas. Vous comprenez? Vous lisez toute la Bible et vous verrez que même ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que dit le prophète ne discutent pas que le prophète est prophète. C'est loin, il se cache. Il se cache, c'est-à-dire. Vous comprenez? Et donc, le fait que les juifs on continue à être juif après Pourim, c'est la preuve qu'au Sinaï, ils avaient accepté librement quand même. Sinon, ils se seraient dévoilés. Bon, il n'y a plus cette contrainte. Eh bien, on va ailleurs. Ben non, ils sont restés juifs.
Mais un prophète, ça se tue.
Oui, on peut tuer un prophète, mais on ne peut pas nier qu'il est bon. C'est ce que je faisais. On peut dire non à ce qu'il dit, mais en disant non à ce qu'il dit, on sait qu'on dit non à la vérité. Un peu comme, je descends un peu de Géniveau, un peu cette phrase, je crois, de La Rochefoucauld, le vice est un hommage rendu à la vertu. Ça ressemble. Mais c'est très frappant. Il est bien tout le récit biblique, tout le Tanakh, que jamais les prophètes n'ont à démontrer qu'ils sont prophètes. Et les contemporains savent très bien qu'ils sont prophètes. Ils sont pour ou contre. Mais qu'il y ait révélation, personne ne discute. Nous sommes dans un monde qui n'est pas comme ça, où on n'a pas expérience. Sinon, des choses qui ressemblent un peu par l'étude, on n'a pas expérience de la présence du prophète. Est-ce que c'est clair? Et un prophète peut être un faux prophète. Prophète est faux. C'est-à-dire, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a un événement qui s'est arrêté là, ce dont je parle depuis le début de l'année, que la révélation a eu lieu, et elle dit elle-même, je vais m'interrompre. C'est là qu'en Occident a commencé la philosophie. C'est là qu'en Orient a commencé à nous rappeler tout ça. Eh bien, que le peuple juif soit resté fidèle à la Torah, bien que cette contrainte ait disparu, c'est la preuve que quand il avait accepté la Torah au Sinaï sous la contrainte, c'était librement qu'il avait. Vous avez compris le chidouche? C'est pas un chidouche, c'est le chat. C'est clair. Alors, je vais un peu développer. D'abord, là apparaît une blague de Pourim. Et par quelle preuve, par quel événement ils font cette preuve? En acceptant d'ajouter au mitzvot de la Torah la fête de Pourim. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'ils vont accepter une mitzvah alors qu'il n'y a plus la contrainte de la révélation. Quelle mitzvah ils acceptent? Pourim. Vous n'avez pas compris la blague? Pas compris. mitzvah étudiée. On vous propose une mitzvah, quoi? Vous allez faire la fête de Pourri. Qui va dire non? Oui. Ça y est, le petit train est arrivé. Pas encore. Vous êtes trop sérieuse, pas plus. Je ne sais pas comment vous formulez ça, mais imaginez quelqu'un qui vient vous dire, voilà, vous aurez le paradis à condition d'accepter une mitzvah supplémentaire. Par là, vous allez faire la preuve, si vous autres vous avez tout quoi, ben voilà, vous allez vous déguiser, vous allez faire la fête, vous allez prendre du même, vous allez... T'as vu, c'est quoi? Alors, on vient au... Alors, vous voyez, deux éléments importants, liés à l'arrêt de la révélation et la continuation du lien à la révélation. Au moment de Purim. Si vous voulez, Purim, c'est le dévoilement par excellence que Israël est attaché à la Torah. Parce que la révélation a cessé, mais on continue.
Vous avez dit que
c'est le dernier livret.
Comment on l'a dit?
Par le Beit HaMidrash de Mardoché, qui est le prophète.
Mais
là, oui, c'est la fin. C'est la fin. Le dernier Beit HaMidrash, c'est Malachi, Mordechai, Ezra, Néhémie. Ezra, c'est la charnière entre le temps des prophètes et nous sommes à cette génération-là et le temps des Hachamim. La Gemara dit.